Extra classe.
Quand on cherche des idées ou des conseils pour une activité pédagogique, pour renouveler ses pratiques ou même simplement pour intégrer une dynamique collective quand on se sent isolé, vers qui on peut se tourner, Régis ?
Alors, tu peux bien sûr demander à tes collègues de terrain, c'est évident. Tu peux chercher dans des bouquins ou en ligne. Et aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, il y a de fortes chances que tu tombes très vite sur des collectifs d'enseignants, plus ou moins formels, disciplinaires ou non, qui proposent toutes sortes d'activités, de contenus ou d'accompagnement.
C'est à ces communautés que nous nous intéressons aujourd'hui dans Parlons Pratique. Quelle forme elles peuvent prendre, qui les nourrit, et puis quel rôle elles peuvent jouer en matière de développement professionnel.
Et pour explorer la galaxie des enseignants qui jouent le collectif, nous sommes avec Georges Ferron et Charlie Rollo. Charlie Rollo, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes professeur d'anglais dans l'Académie de Versailles et cofondateur du collectif Team Ludens et président de l'association Loi 1901. J'allais dire du même nom, mais non, pas tout à fait. Elle s'appelle Semper Ludens. Et vous avez notamment comme ambition d'essaimer, de développer et d'accompagner par la formation les pratiques de ludification et les pédagogies actives. Mais vous en direz plus tout à l'heure.
C'est tout bon.
Georges Ferron, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférences en sciences de l'éducation à l'université Paris 8, Paris-Est Créteil. Vous avez notamment travaillé et publié sur les communautés d'apprentissage en ligne et le travail collaboratif dans la formation des enseignants.
C'est bien ça.
Alors, première chose qu'on a envie de vous demander, Georges Ferron, c'est un peu le point de départ, quelques points de définition, communauté, collectif, communauté d'apprentissage. Est-ce que vous pouvez nous déblayer un petit peu toute cette terminologie ?
Alors, je peux essayer. Vous commencez par une question qui n'est pas la plus facile. Hein. Comme vous le savez, les chercheurs discutent beaucoup sur ces notions, sur ces questions. Globalement, moi, j'utilise le terme collectif pour désigner donc des enseignants qui travaillent. On parle bien d'espace virtuel, avec l'idée d'échange entre pairs. Et donc, les collectifs, c'est un nom générique qu'on utilise pour décrire, en fait, tous ces regroupements d'enseignants. Et puis, moi, je distingue les réseaux d'enseignants et les communautés. Les réseaux, c'est... De mon point de vue, c'est plutôt des gens, des enseignants qui échangent des informations et des ressources. Et la communauté, m'inspirant des travaux d'Étienne Wenger, qui a beaucoup travaillé sur la question des communautés de pratique, eh bien, c'est des enseignants qui construisent en collectif un véritable projet. Alors, bon, les chercheurs, je vous l'ai dit, ne sont pas tous d'accord. Si vous voyez par exemple les travaux d'Isabelle Quentin, elle indique l'ensemble des réseaux en donnant des définitions un petit peu différentes. Mais je trouve que d'un point de vue un peu pragmatique, faire cette distinction entre réseaux, donc des enseignants qui changent juste des ressources et des informations, et puis des communautés qui développent de véritables projets, c'est assez utile pour distinguer ce type de collectif.
On fera un point, notamment, vous l'avez nommé, sur les travaux d'Isabelle Quentin dans un instant. Charlie, de votre côté, est-ce que vous pourriez nous dire déjà quelques mots de votre collectif, de ce qui vous a rassemblé, de ce qui vous anime, et de votre côté, comment vous définissez un collectif, et plus particulièrement la Team Ludens?
Je pense que ce qui nous rassemble le plus, c'est un but commun, on va dire une passion commune. Nous, par exemple, c'est parti en effet de l'épanouissement de nos élèves par les pédagogies actives. Et puis, c'est un besoin aussi de s'ouvrir à des collègues de différentes matières, d'horizons différents. Et ça nous a vraiment permis de mutualiser nos pratiques, de découvrir, de tester, et puis tout cela en toute bienveillance. Et ça nous a permis aussi de questionner nos pratiques, ce qu'on faisait peut-être pas forcément avec nos collègues. Et donc, comme vous le disiez, donc tout cela se fait sur les réseaux sociaux beaucoup. Et je pense que en général, ce sont quand même les passions communes qui rassemblent les collectifs, que ce soit en effet les jeux, que ce soit les partages de pratiques enseignantes. Il y a une espèce de besoin, une envie en tout cas d'appartenir à quelque chose qui nous passionne, qui nous fascine aussi. Et puis voilà, ces collectifs nous permettent d'échanger librement et c'est ce qu'on fait aussi dans la Team Ludens. On partage, on mutualise, on accompagne les enseignants. On a vraiment à cœur d'évoluer dans nos pratiques, mais de partager aussi tout ce qu'on découvre et tout cela pour nos élèves.
Régis, est-ce que tu veux bien nous faire du coup ce petit tour d'horizon d'une typologie des communautés, des collectifs? Comme ça, on va savoir, on va un peu mieux comprendre de quoi il s'agit.
Oui, alors effectivement, je vais m'appuyer sur les travaux d'Isabelle Quentin. Donc, c'est une chercheuse qui a travaillé sur ces fameux collectifs et elle en a défini une typologie qui est bien utile pour comprendre leur fonctionnement et qui va nous aider à aller plus loin dans cet épisode. Et le premier type de collectif qu'elle identifie, c'est le type dit bac à sable, avec des règles de fonctionnement souples, souvent implicites, ce qui les rend parfois difficiles à comprendre pour les nouveaux arrivants. Dans ces dispositifs de type bac à sable, elle dit que chaque action individuelle est mise en lumière et que les membres ne communiquent pas de façon organisée sur leur collectif, en tout cas.
Tu nous en donnes un exemple ?
Alors, le collectif qu'elle a étudié, il s'appelle Le Manège. C'est un site de mutualisation de ressources pédagogiques en économie-gestion. Et on imagine bien ce que peut représenter ce type de site de mutualisation. Le deuxième type qu'elle a identifié, c'est le collectif de type ruche. En fait, c'est tout un continuum entre le bac à sable et le type ruche. Mais pour le type ruche, elle explique que ce type de collectif rassemble des membres d'une même discipline, ou en tout cas autour d'une même discipline, que les règles de fonctionnement sont assez strictes pour permettre de réaliser des tâches de type complexe. Des tâches qui sont parfois à contraintes fortes et donc qui sont réparties et planifiées à l'avance. Et dans ce type de collectif, les individus s'effacent devant la production collective. Certains de ces collectifs collaborent même avec l'institution ou avec des laboratoires de recherche.
Et est-ce que Tim Ludens entrerait dans cette catégorie selon toi ?
Alors, je te propose qu'on continue et que Charlie nous le dise lui-même un peu plus loin. En tout cas, Isabelle Quentin a étudié des collectifs qu'elle classe dans cette typologie de ruches, comme les Clionautes ou encore le groupe Sésamat. Alors, le groupe Sésamat, il est né en 1998 et c'est ce groupe qui produit les fameux manuels scolaires libres du même nom depuis 2005. Et en préparant cette émission, Georges Ferron nous a aussi expliqué que Twicté, dit le dispositif collaboratif d'enseignement et d'apprentissage de l'orthographe, est également de ce type ruche. Il nous en dira plus tout à l'heure, puisqu'il a, ça fait partie des dispositifs qu'il a pu étudier dans ses travaux de recherche.
Bon, celui-ci, tu le connais bien, hein, je pense qu'on peut le préciser pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, puisque tu en es le président. Alors, là, ensuite.
Ouais, tout à fait. Il y a aussi des collectifs qu'elle définit d'un type nouveau, sans avoir donné de nom explicite, en tout cas à ma connaissance, donc qui sont ni tout à fait ruche, ni tout à fait bac à sable. Donc, dans ce type de collectif, il y a souvent la promotion d'une démarche pédagogique particulière, une forte structuration qui impose des actions de communication très organisées, un adressage à des enseignants pas forcément issus d'une même discipline comme le groupe de tout à l'heure, et une mise en avant des formes de reconnaissance, qu'elles soient institutionnelles ou via des laboratoires de recherche.
Et là, on trouve qui, par exemple ?
Là, on trouve, et je pense que Georges Ferron nous en dira plus tout à l'heure également, Aversons la classe, qui est une association Loi 1900 à but non lucratif, qui s'appuie et qui promeut notamment la formation par les pairs et la mise en réseau des enseignants. Mais si j'en crois leur site web, actuellement, Aversons la classe, c'est terminé.
Ah.
Il y a aussi Les Saventuriers École de la Recherche, qui est un programme éducatif qui promeut l'éducation par la recherche au niveau national et international en proposant des projets pédagogiques, des formations et des ressources et méthodologies scientifiques.
Alors, est-ce qu'on a fait le tour ?
Alors, on n'a pas tout à fait le tour. Il y a une dernière catégorie qu'Isabelle Quentin a identifiée, qui sont les groupes dits informels. Alors, par nature, sont les plus difficiles à analyser, mais la chercheuse propose quand même quelques caractéristiques pour les identifier. Donc, sont des réseaux qui permettent d'échanger et coopérer sans s'obliger à respecter des règles strictes, avec une participation libre aux activités au moment où chacun le souhaite et qui n'ont aucune relation particulière qui est entretenue, que ce soit avec l'institution ou avec la recherche. Voilà pour ce tour un petit peu autour des travaux d'Isabelle Quentin.
Merci Régis. Charlie, est-ce que vous êtes d'accord pour mettre Tim Ludens plutôt dans la catégorie ruche et dites-nous un peu plus sur vos activités.
Ouais, alors je ne sais pas vraiment si on se retrouverait dans le type ruche. C'est vrai qu'on est la Tim Ludens est composée quand même majoritairement d'enseignants de différentes disciplines. Donc je me retrouve beaucoup plus dans la 3 qui serait donc soit le bac à ruche ou la ruche à sable. Donc on a vraiment une organisation qui est très ordonnée. Chacun a sa mission, on peut beaucoup déléguer, on discute beaucoup entre nous. On a dû en effet mettre en place une organisation formation qui est obligatoire parce qu'on a développé beaucoup de projets et que avec tous ces projets qui se sont multipliés et qui viennent les uns après les autres, on a eu besoin en tout cas de mettre en avant tout ça par une organisation. Donc en fait, notre organisation passe principalement par les discussions. On discute beaucoup entre nous et de ces discussions vont naître les projets. De ces projets, on va devoir valoriser, c'est-à-dire mettre tous ces projets en avant sur notre site, sur les réseaux sociaux aussi beaucoup. Donc ça demande également du travail. Et puis à côté, on a les accompagnements des collègues. Donc nous, entre nous, on monte en compétences, mais on accompagne également les collègues lors de temps d'ateliers qu'on prépare en ligne. Donc on a beaucoup de choses à préparer et cela demande en effet un travail de ruche pour le coup.
Georges Ferron, entre ce que dit Charlie Rollo, les travaux dont on a parlé d'Isabelle Quentin et peut-être les collectifs que vous avez pu observer et cette typologie, qu'est-ce que vous pourriez ajouter à ce qui a été dit ?
Alors, donc moi, je n'ai pas travaillé spécifiquement sur la classification, hein, puisqu'il y a des chercheuses comme Isabelle Quentin qui a fait le travail, qui l'a très bien fait. À ce propos, d'ailleurs, elle a édité une page, hein, si vos auditeurs recherchent communauté virtuelle et Isabelle Quentin, ils trouveront sur tout un listing, un recensement des différents réseaux d'enseignants. Moi, j'ai principalement travaillé donc avec des communautés d'apprentissage qui visaient le développement, de manière explicite, qui visaient le développement professionnel des enseignants. Donc, c'est pour ça que je me suis intéressé en particulier au réseau Twicté et ainsi qu'à la classe inversée. Et pour faire un commentaire, il ne s'agit pas simplement forcément dans le type hein, décrit par Isabelle Quentin, c'est pas forcément la discipline qui joue. En fait, c'est plutôt les modalités de travail au sein même de la communauté. Les règles, le fait que vous ayez des productions, ça, ce sont des éléments qui, a priori, sont porteurs de développement professionnel.
Alors justement, Georges Ferron, vous parlez de développement professionnel. Est-ce que vous pouvez nous aider à le définir ? Qu'est-ce que vous entendez ? Qu'est-ce que vous mettez derrière ?
Alors, là encore une fois, rien n'est simple dans la recherche. Hein, les définitions sont multiples. Hein, donc, il s'agit d'un développement à la fois des connaissances, des savoirs professionnels, mais aussi de l'identité professionnelle. Hein, cette notion est très importante, notamment si on étudie les communautés, reconnues par la personne elle-même, mais aussi par la communauté, avec, et le collègue l'a cité tout à l'heure, avec pour fonction l'amélioration des apprentissages des élèves. Donc voilà une définition qui permet de voir les différents éléments, c'est-à-dire qu'on a bien un développement personnel, mais qui est en lien avec un collectif, ayant pour objectif l'apprentissage des élèves.
Charlie, de votre côté, est-ce que ce terme de développement professionnel résonne avec les activités que vous pratiquez, que vous produisez au sein de la team Ludens ?
Vraiment. En fait, quand on ouvre les portes d'un collectif, c'est vraiment incroyable ce qui se passe. On ne se rend pas compte du tout des constellations qui existent au-delà de notre établissement. On parle beaucoup de l'école et de la classe, mais on parle très peu finalement quand on arrive dans l'enseignement de tous ces collectifs qui existent. Et moi, je rejoins totalement ce que vous disiez. Moi, ça m'a vraiment permis de découvrir des nouvelles pratiques. Donc, moi, donc, en ce qui me concerne, ça a été le jeu sérieux en classe, puis les classes autonomes, les pédagogies actives. Ça m'a ouvert des portes pour animer des ateliers de type informel. On n'est pas dans des formations institutionnelles, mais ça m'a permis de développer ma confiance en moi. J'ai beaucoup évolué et ça m'a permis par exemple de prendre ça comme un trampoline et de postuler à la Dame de Versailles, ce que j'aurais jamais fait avant. Donc on a tout ça et puis en effet on a tout ce qui est compétences qui sont peut-être plus indirect, c'est-à-dire le sens de l'organisation. Quand un collectif évolue, eh bien, il y a tout un, en effet, il y a toute une organisation à mettre en place. Par exemple, voilà, on a créé un magazine. Ben, il y a d'autres choses, il y a d'autres compétences qui se sont mises en place. Par exemple, voilà, la rédaction d'articles, la mise en page, tout ce qui est la charte graphique du collectif aussi, puisqu'il y a, voilà, créer un logo, on fait des vidéos, donc on va mettre un petit teaser. Enfin voilà, il y a tout un panel de compétences qu'on développe, qu'on connaissait pas avant. On est un petit peu au début, c'est du brouillon un petit peu au début, et puis plus on avance, plus on monte en compétences, on rencontre des personnes. C'est ça aussi les collectifs, c'est qu'on rencontre d'autres collectifs, on grandit de la rencontre avec ces autres collectifs, et puis on en devient meilleur autant professionnellement que personnellement. Je pense que ça touche les deux, en fait. Ça touche les qualités humaines et les qualités professionnelles.
Georges Ferron, est-ce que ça rejoint ce que vous avez pu analyser?
Oui, absolument. Et quand vous parlez de développer des compétences personnelles, c'est vrai, quand on interroge, par exemple, les membres les plus actifs de Twicté, bien souvent, ils mettent en avant, je dirais, d'autres compétences que celles d'enseigner. Développer des projets, les compétences informatiques, exactement ce que vous venez de citer, à tel point d'ailleurs que notre équipe de recherche s'est demandé parfois si ces compétences-là, finalement, prenaient pas un peu le pas sur les compétences, je dirais, purement d'enseignant.
Justement, pour tirer ce fil, Georges Ferron, autour de deux types de compétences qui seraient développées quelque part dans ces collectifs, on a cru comprendre que l'effet sur le développement professionnel dans ces collectifs est surtout lié à la nature des interactions, d'un côté plutôt pédagogique et didactique, et d'un autre côté plutôt transversal et technique. Et on est plutôt du côté didactique et pédagogique qui contribuerait au développement professionnel.
Oui, oui, c'est vraiment ça. On voit bien l'effet, c'est la nature et l'intensité de l'engagement. Et ensuite, c'est ce sur quoi portent les interactions. Alors, on voit par exemple un dispositif comme Twicté qui a énormément grandi ces dernières années. Il est compliqué, il est extrêmement chronophage de gérer 800, je ne sais pas combien vous êtes de classes, entre 800 et 1000 classes. Donc, il y a un effet dispositif qui est extrêmement lourd à gérer et beaucoup d'interactions, l'essentiel peut-être des interactions, sert à gérer tout ce dispositif. Et donc, la question, c'est qu'est-ce qu'il reste comme disponibilité pour interagir sur les questions, la fondamentale sur la question du développement professionnel, c'est sur les questions pédagogiques. Et puis, puisque vous visez l'apprentissage de l'orthographe, sur des questions de nature didactique. Et un des postulats de l'association, et pratiquement tous ces collectifs font le même postulat, de développement professionnel par les pairs, bien souvent, on voit que les interactions sur des questions didactiques, elles se font plutôt sur des petits groupes, voire d'une personne à l'autre, et elles sont rarement l'objet de discussions et d'interactions collectives.
Charlie, on parle de développement professionnel et de formation. Je crois que vous avez aussi une part dans la formation. Et comment est-ce que vous vous situez par rapport à ce que propose l'institution? Est-ce que vous voyez plutôt comme un palliatif ou plutôt en complémentarité?
Je pense qu'on se place vraiment en complémentarité. Je pense qu'on fait ça parce qu'on ressent un besoin, un manque aussi, du coup. Il me semble que voilà, on n'est pas affilié avec l'institution, mais ça nous permet peut-être de mettre en place des temps plus informels, moins contraignants aussi au niveau du cadre. Et puis, ça nous permet aussi d'animer des temps de manière décontractée durant les mercredis après-midi, les week-ends ou bien les vacances, ce qu'on pourrait pas faire, ou je pense qu'il serait peut-être pas forcément accepté par les enseignants, voilà, si c'était porté par les institutions sur ces temps-là, en tout cas. Donc, voilà pour la Team Ludens, je pense.
Ça nous amène à nous demander, effectivement, on l'a déjà effleuré au cours de l'épisode, de qui participe à ces collectifs, de quelle séquence de carrière on parle. Est-ce que ce sont plutôt des enseignants en tout début de carrière? Est-ce que ce sont des enseignants aguerris? Est-ce qu'on a des éléments de recherche à ce propos, Georges?
Alors, moi, je peux parler des enseignants avec qui j'ai mené des entretiens et ceux qui sont présents, notamment dans la Twicté, et également pour la classe inversée. Donc, ce sont des enseignants qui sont plutôt en milieu de carrière, ou en tout cas qui ont réglé les principaux problèmes, notamment de gestion de classe, et qui arrivent à un temps où ils ont besoin d'un second souffle. Et là, les communautés offrent des projets, et aujourd'hui, il y en a une multitude, qui leur redonne, je dirais, un peu, un second souffle dans le métier. Hein. C'est ce qui permet de durer, d'ailleurs, au travers de ces collectifs, puisque il y a l'aspect, certainement, qui est le plus important qu'on a pu noter, nous, c'est vraiment sur des questions d'identité professionnelle, plus que sur des aspects didactiques, dans le sens où ça renforce fortement la confiance en soi, le plaisir d'innover, de tenter des choses. Alors, si vous me parlez des caractéristiques, on en trouve l'engagement dans la formation, l'utilisation des TIS, hein, y a une appétence pour le numérique qui est très, très importante. Vous avez des gens qui sont très en attente d'innovation, hein, qui sont très à l'affût, et pour ça, les réseaux communiquent beaucoup autour des innovations pédagogiques que les enseignants reprennent souvent dans leur classe, sans parfois en discuter véritablement. C'est-à-dire qu'ils adoptent de nouvelles pédagogies, mais sans que ce soit au cœur des discussions ensuite qu'ils ont entre eux. Après, il y a une distinction entre des gens qui vont chercher dans les réseaux ce qu'ils ne trouvent pas dans leur établissement, et d'autres qui, en fait, c'est une suite un peu logique. Ils sont très investis dans leur école, dans leur circonscription, et ils s'investissent aussi dans des réseaux. Là, on peut voir des différences entre certains enseignants.
Charlie, on parle justement d'engagement, d'investissement qui peuvent être variables dans votre collectif. C'est ce que vous expérimentez. Je pense qu'il y a un noyau très actif et puis vous avez aussi tout un ensemble de membres ou de gens qui suivent ce que vous faites. Comment ça s'articule entre les uns et les autres ?
Tu as assez bien résumé toute la problématique de la Team Ludens, qui est une problématique, je pense, qui est assez récurrente dans les collectifs. C'est vrai qu'il y a un noyau très actif, et puis ensuite, en effet, il y a des personnes qui viennent et qui repartent, que nous on appelle joueurs en pause, parce que c'est vrai que bon, nous, on s'est rassemblés autour du jeu. Donc en effet, l'investissement, il dépend de nos vies aussi. On a pris le parti de s'investir dans un collectif, et on sait très bien qu'on a nos vies à gérer. On sait aussi que les personnes qui sont dans des collectifs sont parfois très hyperactifs et sont déjà très engagés dans beaucoup de choses. Donc voilà, parfois quand on voit quelqu'un, on se dit « Ah, ce serait sympa qu'il soit dans notre collectif », on demande, et ce sont déjà des gens qui sont tellement engagés dans plein de choses que parfois ils disent oui parce qu'ils ne savent pas dire non, ce qui est arrivé dans le nôtre. Donc c'est vrai qu'on jongle entre ces différentes casquettes, c'est pas forcément évident, il y a la vie de famille, il y a la vie personnelle qui est à côté. Donc voilà, donc il y a différents degrés d'investissement. En effet, il y a un noyau dur et ensuite, après, il y a des gens qui s'investissent plus ou moins et ça fonctionne très bien comme ça, je pense.
Je vois, Georges, que vous vouliez réagir au propos de Charlie.
Oui, c'est souvent une caractéristique qu'on retrouve. On retrouve toujours un peu les mêmes dans les différents projets. Voilà.
Oui, effectivement. Alors, c'est intéressant parce qu'il y a ce côté de noyau dur, visiblement, qui sont hyper investis, comme le dit Charlie, et qui peuvent faire partie de différents collectifs. Est-ce que ça, puisqu'on va tirer ce fil-là, c'est du côté des obstacles et des freins de ces dispositifs ? Georges, je crois que vous en aviez identifié un certain nombre d'obstacles et de freins, disons, au développement de ces collectifs.
Oui. Le fait d'être un peu partout, on a le risque d'être un peu nulle part, c'est-à-dire d'être très investi sur des questions d'organisation et pas assez sur des questions véritablement didactiques. Donc ça, c'est un des freins. Des freins sur les collectifs, on en a identifié un certain nombre. La taille du collectif peut constituer un frein. Le fait de se sentir légitime ou pas, donc en fonction des statuts différents dans les collectifs, ça peut jouer. Mais le frein principal, c'est la grande difficulté des enseignants à rendre visible ce qui est invisible, c'est-à-dire rendre leurs pratiques visibles et partir de ces pratiques-là pour en faire vraiment l'objet de discussions. Et donc, c'est difficile parce que exposer ces pratiques, c'est s'exposer. Donc, ce n'est pas simple. Et tout à l'heure, vous parliez de bienveillance. Un autre risque, c'est trop de bienveillance, fait qu'on a du mal à garder un esprit critique par rapport à ce qui est présenté, parce qu'on ne veut pas rompre la bonne ambiance qui règne dans ces collectifs. Donc, vous voyez, c'est, C'est vraiment très, très difficile, puisque à la fois, il y a une partie organisationnelle qui est extrêmement chronophage, et puis ensuite, il y a la nécessité de prendre du temps pour se poser des questions, d'aller voir ce que dit la recherche, de prendre du temps d'étudier. Bon, tout ça, c'est très chronophage, et il y a un certain risque en termes d'identité professionnelle que tout le monde n'est pas prêt à prendre.
Charlie, j'ai une dernière petite question justement sur comment est-ce qu'on fait que les enseignants qui arrivent se sentent accueillis, se retrouvent dans ce collectif. On entendait qu'il y avait certains collectifs dans lesquels il était difficile de comprendre les modalités et de s'intégrer. Est-ce que c'est une chose à laquelle vous réfléchissez ?
Oui, en fait, je suis tellement content que vous ayez mis des mots sur ce qui se passe dans le collectif. On est un collectif très jeune, on est un petit peu encore sauvage. Même si on a réussi là à trouver une organisation, c'est vrai que quand les personnes arrivent dans le collectif, ils se disent « Waouh, il se passe 1000 choses, comment je fais pour m'investir ?» Et généralement, ce qu'on fait maintenant, c'est que dès quelqu'un de nouveau arrive, eh bien, on fait une visio, on accueille tout le monde, on propose en fait, on montre tout ce qu'on fait. Et ce qu'on propose, c'est de mettre un premier pas dans un des projets. C'est-à-dire, par exemple, une personne est intéressée par le magazine et on va lui trouver un lien entre sa pratique de classe, par exemple, et la thématique du magazine. Et ça va être un point d'entrée. Pour d'autres, ça va être un atelier juste qu'il allait faire. Et puis, ça va être au nom du collectif. Et ça va être petit à petit, les personnes vont s'intégrer. Mais c'est vrai que ce n'est pas évident au début de faire en sorte qu'on se sente chez soi, sachant que bien forcément nous on sait ce qu'on fait, on sait ce qu'on il y a des personnes qui savent à peu près tout ce qui se passe. Il y en a qui sont au courant de quelques petits projets qui veulent pas s'investir, donc c'est vrai que c'est quand même bien d'avoir des personnes qui sont au courant de tout, ce qui fait que comme vous disiez on est un peu partout mais bon, on a envie de tout savoir, tout ce qui se passe, parce que il se passe tellement de choses qu'on a peur de louper des choses, et ça c'est assez frustrant quand on sait qu'il se passe des choses mais finalement on n'a pas le temps, donc on va pas pouvoir aller dans ce projet là mais c'est vrai qu'il y a ce côté où parfois en effet on appuie sur la pédale de frein, on prend du temps et on essaie vraiment d'accompagner au mieux, mais on a eu personne pour le moment qui est parti parce que n'arrivait pas à se positionner sur l'un des projets. Voilà.
Merci Charlie. On arrive à la fin de cette émission et à une séquence traditionnelle, on va dire, on peut dire depuis un an, c'est une tradition, c'est l'inspiration. Et je commence avec Georges Ferron. Est-ce que vous auriez une inspiration à partager avec nos auditeurs, auditrices ?
Le petit coup de cœur, ce sera d'aller voir ce qui se passe dans la Twicté et aussi dans la constellation de tout ce qui se passe autour de Twicté, où il y a des membres extrêmement actifs qui ont développé beaucoup de projets. Ça a été vraiment un plaisir de travailler pendant 3 ans à étudier cette communauté. Et je pense qu'il y a beaucoup d'enseignants qui trouvent leur compte. Donc ça sera mon petit coup de cœur. Très objectif.
Merci. Et Charlie ?
Ouais, moi je vais parler d'un coup de cœur qui est arrivé lors d'un événement. En fait, j'ai rencontré Mickaël Bertrand, qui fait partie depuis de la Deep Blue Dance et qui est aussi très hyperactif. Il avait fait en fait un atelier où on devait justement réfléchir sur la communauté enseignante et sur la raison de pourquoi elles existent. Et c'était très intéressant. Et je vous conseille notamment un dossier qu'il a écrit pour Animeduc. J'espère ne pas me tromper, qui s'appelle « Les collectifs enseignants des communautés de pairs sur le terrain ». C'est passionnant. Et c'est une personne qui m'inspire aussi et qui est très intéressante. Suivez-le.
Merci pour vos inspirations à tous les deux. On mettra des choses dans les notes de l'émission. En tout cas, ce qu'on retient, c'est que c'est un sujet qui a l'air vaste et complexe, mais qui commence gentiment à être documenté par la recherche. Donc on vous encourage à aller regarder de ce côté-là, puisque j'ai cru comprendre que ces recherches mettent des mots sur ce que les enseignants vivent, c'est ce que disait Charlie Rollo tout à l'heure, qu'on retrouve pas mal de points communs. On a beaucoup parlé de collectifs en ligne, mais ils sont aussi physiques, et on parlait aussi en fin d'émission de termes d'intégration, comment intégrer au mieux les jeunes arrivants dans ces collectifs. En tout cas, si vous n'avez pas encore regardé de ce côté-là, allez regarder sur les réseaux, il y a beaucoup de collectifs et vous trouverez forcément un collectif qui vous va bien, j'ai envie de dire. Merci à tous les deux, un grand merci Charlie et un grand merci Georges d'avoir participé à cet épisode de Parlons Pratique.
Merci à vous.
Merci bien.
Quand les enseignants jouent le collectif, un épisode Parlons Pratique préparé et animé par
Régis Forgione
et Hélène Audard.
Réalisé grâce à l'appui technique de Delphine Graff-Meyer de l'atelier Canopée 77 Melun et Nathalie Jetta de l'atelier Canopée 78 Marly-Leroy.
Montage et mixage
Laurent Gaillard.
Coordination de production
Luc Taramini, Hervé Thury et Magali Devance.
Directrice de publication
Marie-Caroline Missire.
Suivez-nous sur extraclasse.réseau-canopée.fr ou sur votre plateforme de podcast préférée pour écouter tous les épisodes dès leur sortie.
Une production Réseau Canopée 2022.
Extraclasse.